franceinter.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
C'est
qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est haut de mon amour, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite comme vous sur la route, je vous le souhaite. Pierrick Monsigny et Rémi Quincé sont à la technique, assistés de Stéphane Combe. C'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Une petite humeur pour débuter. Allez, les oiseaux, combien de divisions? Des milliards. Combien de votants chez eux? Bah aucun. Aussi, nous retrouverons-nous peut-être un jour seuls dans le grand lit des champs et des bois d'Île-de-France, car Nature Parif, associé au Muséum d'Histoire Naturelle, nous rappelle que depuis 50 ans, un tiers des espèces d'oiseaux ont disparu en Île-de-France. Sur 151 oiseaux nicheurs, 39 sont en danger de disparition et 10 sont carrément devenus invisibles, voire illisibles. Donc nous pouvons aussi élargir malheureusement ces données à l'ensemble de la France et de nombreux bénévoles, eh bien associatifs ou non, observent, dénombrent, parcourent un espace naturel aujourd'hui normalisé. Ils établissent des statistiques fiables et sérieuses, aptes à réveiller l'apathie ambiante quand ce n'est pas la franche hostilité des milieux destructeurs concernés. 50 ans qu'on se prend pour un dieu chimique tout-puissant et le garde-manger de la campagne agricole sonne creux. Et sur les plans d'eau de plus en plus artificialisés, eh bien les pédalos, vous l'avez remarqué, se produisent un tout petit peu plus vite que les grèbes huppées. 50 ans qu'on bouleverse les équilibres, qu'on rase gratis une nature méconnue, désinfectée, débroussaillée. Et la note, en fait, risque d'être salée. Et pas que pour les piafs, car nous sommes tous le gras aux lèvres, au bord, au bout de la cuisse de la caille rôtie. Allez, reprenez donc un coup de rouge. Envolé d'un coup de baguette tragique, où sont passées les compagnies de perdrix du Garlaban, les nuées de tourterelles des bois, du Médoc, les bécassines, les courlis, les blongeaux-snins, les busards cendrés, les gorges bleues. Et oui, les gorges bleues, ça existait, figurez-vous. Et tout ce qui zinzinabulait dans les roselières. Même l'humble moineau friquet a déserter les campagnes inhospitalières. Et puis, qui aura le courage en fait d'affronter un jour la puissance de feu du peuple des chasseurs, à qui il faut demander à genoux, par le biais d'une ex-ministre aujourd'hui, certes convaincue, mais dont le pouvoir en période d'élection sur ce dossier pèse autant que trois mésanges réunis, donc demander de simplement faire une pause dans leurs instants de loisirs mortels pour ne pas ajouter une calamité supplémentaire au sort des populations d'oiseaux épuisés, affamés par le gel, incapable de se déplacer, au point de se laisser croquer en boule pitoyable par tous les chiens qui passent, ou de ne pas voler plus haut qu'un pare-choc pressé de vacanciers. Le simple bon sens du gestionnaire impose ce respect. Et d'ailleurs, l'actualité est tout à fait récente. Cette nuit, en Ardèche, bien au col de l'Escrinet, un des hauts lieux de la migration en France, une partie extrémiste des chasseurs, et je précise bien que ça ne représente pas du tout la majorité de l'espèce, donc a tronçonné les arbres, ravagé les camps d'observation des naturalistes qui empêchent de plomber en rond. On obtient souvent de meilleurs résultats en étant poli et armé qu'en étant simplement poli, disait Al Capone. Alors les lois existent. Elles ont été âprement discutées, pied à pied, mais monsieur le juge harassé a lui aussi besoin de se détendre. Il chasse avec monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le député, et tout ceci, toutes couleurs politiques confondues. Au menu de cette émission, nous allons faire une longue petite balade dans Lorraine, dans le jardin gelé de Jean-Marie Pell. J'avais tourné ce sujet il y a à peu près 7-8 jours, donc vous verrez, réflexion au fond d'un jardin, puis il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Mais je voudrais revenir là quelques instants sur une autre actualité qui a eu lieu il y a quelques semaines, on n'a pas tellement eu le temps de la développer. C'était suite à une décision en fait, du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. L'Agence nationale de la Recherche a annulé son programme 2012 de financement sur les contaminants de l'environnement et leurs effets. Alors c'est un programme qui a été lancé à peine il y a un an à peine plus tôt, et en fait l'étude des contaminants sur les écosystèmes, les hommes, le vivant devrait être un des sujets majeurs. Alors Alain Trautmann, vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, fondateur aussi de Sauvons la Recherche. Quelles leçons en tirez-vous ?
Les leçons qu'on peut tirer de ça, c'est la première, c'est que je pense que la recherche sur les contaminants de l'environnement, je pense que tout le monde peut se rendre compte que c'est quelque chose qui est très important. On est dans une époque où les cancers liés à l'environnement croissent, augmentent, et il est évident que faire des recherches là-dessus, c'est quelque chose d'important. La deuxième leçon, c'est que clairement cette question n'est pas une priorité pour le gouvernement, quoi qu'il dise, parce qu'il fait une grande déclaration pour dire qu'il est très écologiste, très préoccupé de questions écologiques, mais au moment du Grenelle de l'environnement, il avait annoncé tout un programme sur ce genre de questions, il avait annoncé la création de postes d'enseignants-chercheurs sur cette question, et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a eu aucun poste de créé derrière, et que lorsqu'un programme a été lancé, il a été annulé un an plus tard. Donc, je pense qu'il faut tirer les conclusions clairement. Ce n'est pas une priorité pour le gouvernement, même s'il dit le contraire.
Et puis ce ne sont pas en fait des programmes qui peuvent s'étaler uniquement sur une année. On est dans le long terme.
C'est exactement le point suivant auquel je souhaitais venir. C'est que pour des questions qui sont permanentes et qui vont durer pendant un certain temps, on voit aussi que ce mode de financement sur les contrats courts n'est absolument pas approprié. On voit bien que si le gouvernement avait décidé à un moment donné de faire en sorte qu'il y ait une série de laboratoires permanents qui travaillent sur ces questions, eh bien on ne se poserait pas la question de savoir si on annule chaque année. Donc il est évident que pour des questions au long terme, il faut des structures au long terme, et l'ANR qui finance des contrats courts n'est pas la bonne structure pour financer ça, et l'est d'autant moins que cette agence de financement est très étroitement contrôlée par le gouvernement, ce qui est propre à la France et qu'on ne trouve pas dans d'autres pays, parce qu'il y a des agences un peu équivalentes aux États-Unis, en Allemagne, etc., mais qui sont des agences où le poids des scientifiques dans le choix de ce qui doit être fait, ce poids est beaucoup plus lourd.
Alain Trautmann, est-ce que tous les travaux sur les contaminants de l'environnement sont arrêtés ?
Alors d'abord, pour ne pas exagérer les choses et faire du catastrophisme mal à propos, ça ne veut pas dire que toutes les recherches sur les contaminants de l'environnement vont être arrêtées, dans la mesure où il n'y a pas une seule source de financement, l'ANR. Il y a des laboratoires permanents qui dépendent de l'INSERM, par exemple, qui ont une activité dans ce domaine-là, par exemple, qui font des recherches épidémiologiques. Ça veut dire, par exemple, savoir si un certain type de leucémie est plus fréquent en milieu agricole ou en milieu urbain, etc. Donc, il y a des laboratoires qui continuent à travailler. Simplement, quand on tarit une des sources de financement possibles pour ces laboratoires, ils vont se mettre à travailler à vitesse réduite et plus difficilement. Un autre type de recherche, pour continuer à répondre à votre question, c'est de viser certains types de produits chimiques qui existent dans notre environnement. On a vu récemment avec l'histoire des polyphénols, une molécule qui est présente dans toute une série d'emballages plastiques. Et donc la question là est de savoir, est-ce que ces polyphénols sont toxiques ? La réponse récente qui a été donnée est que oui, ils risquent d'être toxiques, et donc on va retirer de la vente les produits qui incluent ce genre de molécules. Toxicité de certaines molécules connues ou recherche épidémiologique, voilà deux sortes de recherches qui sont importantes, et on comprend que les industriels de la chimie, quelquefois, ça les arrange pas trop qu'on aille fouiller trop en détail sur la toxicité possible de leurs produits, si la conclusion c'est qu'on leur demande d'arrêter la vente de ces produits.
Donc pour vous,
ça
peut être à la
fois.
Oui, ça peut être à la fois une volonté, on va dire, de faire des économies tous azimuts comme dans n'importe quel domaine, mais aussi la volonté de satisfaire peut-être des lobbies de l'industrie chimique, pour l'interrogation, qui n'aiment pas qu'on examine de trop près les risques.
Donc on va mettre ça avec un point d'interrogation. Hein. Je n'ai aucune information certaine, aucune certitude. Mais pour reprendre la phrase de regarder, chercher à qui le crime peut profiter, quand on arrête un type d'activité qui est important, à qui ça peut profiter ? Ben, ça peut profiter à ceux qui n'ont pas trop envie qu'on regarde les choses de trop près.
Merci Alain Trautmann, c'était notre actualité. Nous allons avoir une autre actualité avec Nathalie Fontrelle, mais auparavant, ce sera Jean-Marie Pelt dans quelques instants. Prenez un petit pull quand même, ça sera mieux.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Qui attire ?
Rien.
C'est ta fibre.
Hein ?
Qui attire ?
Rien.
Je n'existe Qu'y a-t-il ?
Rien.
J'ai ta fibre.
Hein ?
Ça t'abîme ?
Non.
Je m'exhibe. Qui a-t-il ?
J'aime.
Quand tu piges.
Rien.
Je t'abîme.
Hein ?
C'est ma vie.
C'est pas un temps à mettre un éléphant dehors, mais le groupe, on pouvait le mettre dehors, c'était le cas, donc ça s'appelait Rien. Et merci à Jean-Baptiste Audibert donc, d'avoir choisi ce disque que nous, dont nous faisons la promotion sur France Inter, vous l'avez compris. Alors, on va aller où ça ? En Lorraine, ouais. On va se mettre au soleil, Jean-Marie, hein, ça sera quand même un peu mieux dans votre jardin.
Oui. On est au soleil dans le jardin, tout blanc.
Oui.
Tout blanc et très froid.
Car nous sommes en train d'effectuer une expérience, en fait.
Oui, c'est ça. Il fait moins 5. À peu près la nuit, il a fait moins 13. Hein.
Oui.
C'est très beau. La campagne est très belle. On a l'anticyclone de Sibérie.
Oui.
Alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant. À la carte météo, hier soir, on voyait que l'anticyclone était en train de chasser la dépression qui a donné de la neige dans l'ouest, vers l'ouest. C'est-à-dire qu'on a vu une dépression partir vers l'ouest. Ce qui n'arrive jamais, 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 jamais. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup intrigué.
Il y a votre compost qui est un peu gelé, c'est difficile de le remuer, mais enfin bon, il est là.
Il est là, le compost.
Ah, le carré de jardin est donc derrière, mais là, faudra...
Il y a les pommes.
Oui. Bon, donc là, nous faisons une expérience de, comment on va dire, cryogénisation, peut-être.
Conservation par le froid.
C'est ça.
C'est une très bonne idée.
Oui, bon, enfin, le Lorrain est quand même...
Oui, c'est cryogéné adapté. Par nature.
Oui, c'est ça. Hein.
Oui, 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 tout à fait, oui.
Vous n'avez pas grand-chose à envier à Mout, dans certains cas, ça va faire...
Non, Mout, c'est pire. C'est dans le doups.
C'est dans le doups, c'est un peu dans le dur aussi, mais c'est quand même dans le doups. Voilà, c'est ça.
«
Tout d'abord, le lieu, le jardin lorrain de notre agrégé de pharmacie, grand sage Jean-Marie Pelt, sur la crête d'un plateau. C'était quand ? Eh bien, c'était il y a une dizaine de jours. Souvenez-vous, quand la nature était un congélateur géant. Alors, les acteurs, bon, Jean-Marie Pelt, et très important, Sarah dit Pépette. Pépette, donc chienne griffon, bâtarde, aussi basse sur pattes que courte en neurones, bah oui, c'est la réalité. Elle a le même pull-over que Jean-Marie Pelt, elle est gentille et écoute Jean-Marie avec respect pour lui faire plaisir quand il lui dit qu'elle est une créature de Dieu. Bon, quand il lui dit la même chose avec un bout de saucisson à la main, elle est encore plus réceptive. Activité préférée, la bouffe, se faire caresser, regarder 30 millions d'amis, se promener avec nous dans le jardin, ne sait pas lire et encore moins les livres de son maître. C'est parti. Là, on a les pattes des animaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois des mammifères et des oiseaux. Ah oui, oui. Oui. Et puis il y a Sarah, elle est là, Sarah Pépette.
Oui, Sarah.
Oh, bah oui.
Pépette ne va pas rester longtemps.
Non, non, oulala.
Parce qu'elle a un beau revêtement, elle est vêtue, Pépette. Elle n'a pas besoin de s'habiller pour sortir.
Non, je crois que vous avez le même pelage, c'est-à-dire que votre pull est assorti au pelage de Pépette, votre chienne.
C'est ça.
C'est gris et blanc.
C'est gris et blanc, oui. C'est le petit griffon gris et blanc, poivre et sel.
Voilà.
Tout à fait.
Alors ça, c'est votre jardin, une fois de plus, on le sait, de réflexion, de méditation. C'est-à-dire que lorsque parfois vous avez une idée qui a besoin d'être mûrie, de se débloquer, hop, trois tours de jardin et ça.
Oui, ça fait ça. Là, je suis évidemment très attentif à tout ce qui se passe. Ah. Là, il y a des mots magiques. Performance et excellence. La recherche, innovation, ça c'est les grands mots aussi. Pourquoi faut-il l'innovation ? Pour les énergies renouvelables. Oui, sûrement beaucoup d'innovation. Mais surtout parce que l'innovation, ça fait marcher le commerce. Ça, c'est important. Ça fait tourner le commerce, ça fait tourner les affaires, ça fait qu'on fabrique de nouveaux engins dont personne n'a besoin, mais dont tout le monde est persuadé qu'il en a un besoin immense, parce que les autres en ont besoin et parce qu'ils voient la pub à la télé. Donc ça fait marcher l'économie. La tradition, on est dans le jardin, ça ne fait pas marcher l'économie. Non. Le bac de purin d'ortie, là, ça ne fait pas marcher l'économie non. Du tout. Donc, il faut pas. Il faut que ça soit des nouvelles molécules, des nouvelles substances, des nouveaux produits, tout le temps, tout le temps.
Le compost ne fait pas marcher l'économie non plus.
Non, alors on est dans ce monde étrange, avec cette fuite en avant éperdue. Toujours plus vite, toujours autre chose, toujours une autre réforme. Tout ce qui était avant, c'est pas bien.
Ouais, mais ça commence à basculer. Les gens comprennent, alors soit clairement ou bien confusément, que ça ne tient pas la route.
Ça ne peut pas tenir la route. À un moment donné, il faut avoir de la sagesse et savoir refroidir le moteur qui est emballé. Alors, je lisais hier l'article au quotidien sur la performance. Alors, tous les jours, on nous explique que les universités vont être excellentes des performances, dont je me réjouis. Mais je lisais en même temps les succès éblouissants du e-commerce, le commerce en ligne. Alors, ça m'a interrogé aussi parce que je me suis dit, voilà. Je suis commerçant, je vends ma boutique tout de suite. Parce que à la prochaine présidentielle, en 2017, quel sera le grand sujet ? Aujourd'hui, le grand sujet, c'est la réindustrialisation. Parce qu'on avait dit, non, l'industrie, c'est pour des petites mains, mais nous sommes des intellectuels, nous sommes des chercheurs, nous allons développer le tertiaire, qui est plus noble que le secteur primaire de l'industrie.
Il faut dire aussi que les écologistes n'ont jamais soutenu l'industrialisation pour cause de pollution.
C'est vrai aussi.
Voilà, il faut quand même rappeler ça.
Il y avait tout ça. Il y avait tout ça, mais dans 5 ans, alors on dira, catastrophe, le commerce ne marche plus du tout, les petits commerçants quittent les villes, les centres-villes sont complètement atones, parce que tout le monde achète sur Internet. Personne ne se pose cette question. Eh bien moi je me la pose parce que je pense à mon petit libraire, puis je constate que c'est plus facile de prendre des livres sur Amazon. Mais on peut se poser alors la question de l'avenir des libraires.
Oui. Et est-ce qu'ils apportent parce qu'ils lisent
donc, oui, oui, oui.
Ils peuvent vous conseiller.
Ben, bien sûr.
La valeur ajoutée, elle est là.
Quoi. C'est pour ça que je déplore tout à fait que les libraires soient menacés de disparition. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on apprenne petit à petit à voir les problèmes que posent les changements technologiques majeurs dans le futur. Et ça, on ne le voit pas du tout. Personne ne se pose jamais de questions. Moi, depuis que je suis dans l'écologie, je n'ai vu se poser des questions vraiment sur le progrès technologique qu'à propos des OGM. Dans tous les autres domaines, quels qu'ils soient, on ne se pose pas de questions.
Alors, on commence à se poser sur une nanotechnologie.
Oui, oui.
Le coup est parti.
Le coup est parti, mais on se pose après.
On se posera après.
On les pose à titre posthume, si je puis dire. Oui.
Jean-Marie, là, pendant que nous marchons dans ce jardin, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien sûr au repos, les bourgeons sont au repos, mais ça prépare, en fait. On sait que le printemps n'est pas si loin.
Hein. C'est un repos, mais c'est pas le repos éternel. Non. C'est le sommeil.
Regardez,
oh, notre petit chat est venu avec nous.
Alors lui, il est blanc sur blanc.
C'est
hein.
Félix. Oui, il est blanc sur blanc. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas.
Non,
c'est Je me suis posé la question à Rome, comment ils font pour repérer le pape quand il y a de la neige à Rome?
Alors, oui,
il est tout blanc, le pape. On ne doit pas pouvoir le repérer s'il va se promener.
Il met un bonnet rouge pour quelque chose.
Vous savez comment il est, Félix? Il a des yeux pères, un œil vert, un œil bleu, comme Alexandre le Grand. C'est pourquoi parfois je lui dis, viens Alexandre.
Oui.
Mais il ne connaît pas bien l'histoire.
Non, c'est ça. Oui.
Pépette, je lui raconte une histoire tous les soirs.
Il est peut-être un peu plus pacifique, non?
Oui.
Qu'est-ce qui vous réjouit toujours dans ce jardin, quelles que soient les saisons, Jean-Marie, ici là?
Ben moi, je suis très sensible à la beauté. Alors ici, c'est la beauté de la nature. Vous voyez, nous avons ces lointains à l'horizon. C'est silencieux, c'est une campagne très calme. Aujourd'hui, on a ce ciel sans un seul nuage, qui est le ciel typique de l'anticyclone de Sibérie.
Ça brillait l'étoile beaucoup. Hier. Hein,
oui, c'était magnifique. Hier soir, j'ai vu, oui. Tout à fait. Voilà, alors je trouve que c'est important de trouver ce calme dans un monde qui est tellement fébrile, tellement excité, tellement stressé. Je trouve que notre civilisation est une civilisation du stress. Stress au travail, le burn-out,
oui.
Les gens qui sont éliminés, qui ont brûlé, qui se sont brûlés par un excès de stress. Tout ça m'effraie beaucoup. Moi, j'ai besoin de beaucoup de silence, j'ai besoin d'intériorité. Alors, je lisais aussi les jeunes ados sur les sites sociaux. L'article s'appelait moi.com.
C'est ça.
Bon, oui. Ça, je trouve ça terrible. Et je me rappelle cette conversation avec le directeur adjoint d'une des plus grandes multinationales qui fabrique tous ces engins. Alors je lui disais, mais vous ne vous posez pas de questions. Vous avez quand même, j'ai osé dire, perverti les jeunes. Vous leur vendez tout ça, ils n'en ont pas besoin. Il m'a répondu, mais on ne les oblige pas à les acheter. Pan.
Votre chapeau est tombé, Jean-Marie.
Oui, voilà. Oui.
Bon, je vous fais la trace. Hein. C'est pas qu'il y ait 50 cm de neige dans le jardin, mais quand même. Ah, là, on passe sous les mirabelliers. C'est une année superbe cette année, mais je ne sais pas encore ce que ça peut donner. Là. C'est peut-être trop tôt pour plein hiver.
Trop tôt, il faut attendre, savoir attendre.
Qu'est-ce qui manque, Jean-Marie, à l'écologie, en général, aujourd'hui, pour que ça prenne vraiment, pour que les gens soient convaincus?
Bon, je crois que beaucoup de gens ont compris qu'il y a un problème. Beaucoup de gens ont du mal à changer d'habitude, dont moi, parce qu'on est attaché à ses habitudes. Et en ce qui concerne l'écologie politique, elle souffre d'une sorte d'anomalie constitutionnelle qui veut que les élections, à l'Assemblée nationale en particulier, se fassent au scrutin majoritaire. Alors, ça oblige l'écologie politique à passer des accords avec la gauche. Et du coup, ça la coupe d'une partie très importante de l'opinion. S'il y avait le scrutin proportionnel, l'écologie politique serait complètement autonome et aurait, à mon avis, une audience beaucoup plus forte. Mmh. Alors, on va prendre un exemple pour que les gens comprennent bien. À propos de Bayrou, Bayrou a fait aux dernières élections présidentielles 18,5% des voix. Et il a eu 2 députés.
Tandis que les Verts qui ont dû faire 1,52 ou 54%,
voilà.
Ont eu 4 ou 5 députés.
Voilà, voilà. Donc là, on est devant une sorte d'anomalie constitutionnelle. Les Verts n'y peuvent rien, puisque eux-mêmes réclament la proportionnelle.
Ouais. Et d'une manière plus générale, sur l'écologie, qu'est-ce qui manque dans le discours pour justement changer d'habitude?
Ben, écoutez, nous avons un pilonnage médiatique extraordinaire sur l'économie. La seule chose dont on parle tout le temps, c'est l'économie. Et en plus, elle se porte mal. On ne parle pas tout le temps de l'écologie. On dit même que, en voyant des fleurs, sauf en ce qui nous concerne, que l'écologie dans les médias, c'est pas payant. que faire des émissions écolo à la télé, il n'y aura pas beaucoup de téléspectateurs.
En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de documentaires.
Oui, des documentaires.
Et que ça a irrigué dans un certain nombre d'émissions.
Oui, c'est ça. Les documentaires sont très importants. Alors, je pense qu'il faut que l'écologie devienne vraiment une grande priorité, parce que ça nous apprend à regarder loin devant nous. Et quand on regarde loin devant nous, eh bien, il est tout à fait clair que l'on voit que quoi qu'il arrive, la Terre ne pourra pas nous fournir les ressources qui sont nécessaires quand nous serons 9 milliards, quand les niveaux de vie auront augmenté. Et il est complètement exclu que tous les habitants de la Terre vivent le système de vie des Européens ou des Américains, c'est impossible.
Qui en plus s'appauvrissent.
Qui en plus s'appauvrissent par-dessus le marché, oui, tout à fait, oui.
Non, parce qu'on s'est dit pendant très longtemps que les bienfaits du Nord allaient tirer donc, les gens du Sud vers le haut. Alors c'était en partie vrai. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte...
Ça ne sera plus vrai.
Oui, et puis que la misère du Sud remonte vers le Nord.
Oui, tout simplement parce que pour assurer le mode de vie des gens du Nord, il faut de plus en plus de ressources. Et les ressources, elles ne sont pas illimitées. On parlait récemment avec un industriel du problème du cuivre. Ben, le cuivre, il y en a pour 30 ans, quoi. Voilà. Et puis après, il n'y a plus de cuivre. Alors après, il faudra aller couper tous les quaternaires des TGV. Ben oui, pour avoir du cuivre. Bon, alors, ça, tout le monde comprend, ça. La productivité agricole, elle stagne parce qu'on est passé à une productivité très importante grâce aux engrais et grâce aux pesticides. Et si on augmente les quantités d'engrais et de pesticides, elles n'en voient plus non plus, parce qu'on a forcé les terres et elles sont fatiguées.
Même qu'on a forcé les bêtes avec les antibiotiques, on en
aussi.
A mis partout.
Alors, ce modèle de développement, on comprend bien qu'il n'est pas éternel. Bon. Et quand on parle de croissance, tout le monde comprend qu'on ne peut pas croître tout le temps, dans un univers qui est fini.
Même votre antenne de télévision, au loin, ne bouge plus. Elle ne pousse plus maintenant. Vous pensez qu'elle allait grimper vers le ciel.
Elle ne pousse plus. Et le bel arbre qui est devant ne pousse pas non plus.
Ah non, mais il était un peu décapité. Oui.
Il a souffert.
Faut bien dire.
Il est dans une situation post-industrielle.
Voilà, c'est ça. Puis nous avons... symboliquement, parce que donc on a un ciel pur, il n'y a pas un nuage, mais nous avons un pourvoyeur de nuages.
Voilà, c'est l'eau qu'évapore la centrale nucléaire de Cattenom. Voilà. Elle est à 22 km, et c'est juste le périmètre au-delà duquel on n'évacue plus les gens si ça pète. Donc je me tairai dans ma maison, on fermera portes et fenêtres et on jouera au Scrabble.
C'est ça.
Ben oui, c'est qu'est-ce qu'on fasse. Donc il faut qu'elle ne pète pas. Donc je crois qu'elle ne pètera pas.
Alors Jean-Marie, en fait, on est dans un monde en mutation, si on remet ça tout à fait historiquement. On quitte une civilisation, on essaye d'en construire une autre.
Oui.
On ne sait pas si on va y arriver, hein, mais rien n'est écrit en même temps.
Donc. Et c'est ça qui est en train de se faire. Ouais. On n'est pas assez conscient qu'on est dans une période de changement extrêmement important, que l'écologie est porteuse d'une autre culture. C'est très bien dit dans le livre d'Edgar Morin, La Voix. Ouais. Et à d'autres pistes qui se dessinent. Nous passons nos émissions l'une après l'autre à mettre en exergue ces pistes, et ça se fera parce qu'il y aura à un moment donné une opinion publique qui sera de plus en plus forte, il y aura des mouvements citoyens, il y aura des sensibilités qui s'exprimeront, et c'est à mon avis inévitable.
Et même Pépette est d'accord, votre chienne.
Pépette écoute avec intérêt.
Ah oui.
Parce que le vétérinaire a dit qu'il faut lui parler de temps en temps.
C'est ça.
Pépette a écouté. Attends, oui. Elle est toute contente. Elle a bougé la queue tout fort.
Ça veut dire qu'elle est d'accord pour ce changement de civilisation.
Elle est absolument d'accord pour le changement de civilisation. Oui. Elle y participe activement. Oh, elle entretient mon moral.
Oui.
Elle ne m'entretient pas autrement. Mais... elle fait que je suis plus apte à travailler au changement de civilisation.
Ah. Et elle nous montre le chemin pour rentrer, pour se réchauffer.
Voilà.
Parce que le stage de cryogénisation est terminé. On veut bien être cobaye, mais...
Alors c'est maintenant qu'on va voir si on a la même situation qu'Hibernatus, qu'on n'avait pas réussi à ranimer. Ça va être le café.
Hop, on y va. On se dit au revoir, comme d'habitude.
Au revoir, Denis.
Et vous dites toujours,
au revoir à tous nos amis.
Et vous dites toujours au revoir à tous, c'est pour ça qu'on va être perturbés.
Au jardin, nos amis.
Voilà. Toc, 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 ouvrez-nous,
toc, toc, toc.
On est en train de geler sur place. Ah, voilà, merci Claudine, formidable.
Nous sommes là.
Profitez de votre escapade pour passer
Et oui, car on ne passe jamais à l'aspirateur. C'est bien ça, donc la morale qu'il fallait retenir de cette balade avec Jean-Marie dans son jardin, et que nous retrouverons la semaine prochaine tout à fait tranquillement. Mais il y a déjà quelqu'un qui est en piste et qui nous attend. C'est Nathalie Fontrelle avec l'actualité de l'environnement dans quelques instants.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
C'était Lee Fields sur France Inter. Vous êtes bien sur France Inter? J'espère que vous allez bien hein, chez vous, tranquillement, au chaud, au froid, dehors, en voiture. Bon, voilà, tout va bien. Et voici qui? Hey, elle arrive.
Les oiseaux dans la charmille.
Oui, voilà, c'est joli. Mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Et oui, d'autant plus que les charmilles en ce moment. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Alors, notre actualité, consommez, consommez, vous serez de bons citoyens, mais ne jetez plus le petit électroménager à la poubelle.
C'est le message d'Ecosystème, l'organisme qui finance la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Mmh. Il dressait le bilan de l'année passée, cette semaine, et la moitié du gisement échappe encore au recyclage.
Et il s'agit quand même surtout de petits appareils, hein, les petits appareils.
Oui, évidemment, généralement, quand on achète un réfrigérateur, hein, on ne stocke pas l'ancien dans le salon. Oui. Hein. Bon, c'est pas terrible hein, comme mobilier.
Faites ce que vous voulez.
Mais pour le sèche-cheveux, le rasoir électrique et surtout le téléphone portable, eh bien, ça reste au fond d'un placard quand ce n'est pas, et c'est pire, jeté à la poubelle. Écoutez, Christophe Brabant, c'est le président d'Ecosystème.
On vient d'atteindre quasiment 7 kilos l'année dernière par habitant sur l'année de récupération de produits électriques et électroniques en fin de vie, ce qui est une belle performance parce que c'est une progression continue maintenant depuis 5 ans.
Est-ce que vous récupérez tout ?
Alors, on estime qu'on récupère à peu près 50% de ce qui est disponible, c'est-à-dire qu'une partie des flux nous échappe encore parce que c'est soit des mauvais gestes des consommateurs qui jettent à la poubelle ou au lieu de ramener chez leur distributeur ou en déchetterie. Alors la grande nouveauté, c'est que grâce aux espaces de collecte mis en place par Ecosystème dans 26 enseignes de la distribution, 3500 espaces de collecte existent aujourd'hui, sont à disposition des consommateurs qui peuvent sans achat ramener leurs produits dans les magasins et tout à fait librement déposer leurs petits équipements sans conditions d'achat. Auparavant, il y avait une contrainte du fait de la condition d'un achat d'un appareil équivalent. Cette contrainte n'existe plus et c'est une très bonne chose pour les consommateurs pour maintenant initier, développer ce geste et développer la collecte totale.
Ah oui, oh oui, oh oui, encore. Et sachez que si vous rapportez votre téléphone portable, bah, il peut être réutilisé sur le marché de l'occasion. Hein.
Et que si vous laissez votre électroménager sur le trottoir, eh bien, il échappe au recyclage. Les appareils sont dépollués avant d'être recyclés. Et ça, c'est vraiment essentiel, puisque les appareils de froid, hein, par exemple, contiennent des gaz qui appartiennent à la catégorie gaz à effet de serre.
Eh bien, on en parle justement. Donc, on a eu très froid ces dernières semaines. Et pourtant, la Terre continue de se réchauffer.
Et oui, les scientifiques français ont dévoilé les derniers résultats de leurs travaux avec plusieurs scénarios, dont le scénario du pire. Écoutez le climatologue Jean Jouzel.
Le scénario optimiste, c'est oui, on va suivre l'accord de Cancun, on va tout faire pour que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés. Et cela, ça impose des conséquences extrêmement drastiques, c'est-à-dire une diminution de nos émissions très rapide et même avec des émissions pratiquement négatives, c'est-à-dire qu'il faudrait reforester à partir de 2050. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario à l'inverse pessimiste, lui, est peut-être trop pessimiste en ce sens que l'épuisement des ressources fait, heureusement d'ailleurs, qui ne sera peut-être pas réalisable, heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on brûle tout le pétrole, tout le charbon, tout le gaz naturel disponible, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et là, il nous mène à horizon 2300, des températures de 10-12 degrés de réchauffement moyen par rapport à l'actuel, c'est évidemment inimaginable.
Alors, vous savez que ces travaux permettent de rédiger l'état de la science pour le prochain rapport du GIEC.
Alors, on vous le rappelle, le groupe des experts internationaux du climat.
Et pour la première fois, eh bien, les scientifiques vont tenter de faire des prévisions à court terme. Ah. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'échéance du changement climatique à 100 ans, eh bien la plupart des responsables politiques répondent...
Après moi, le déluge, carpe diem, jouissons sans entrave, etc.
Quoi. Exactement. Mais ces prévisions décennales, hein, 10, 20 ans, 30 ans, sont plus difficiles à réaliser d'après Christophe Cassou. Il est chargé de recherche au CNRS.
La difficulté de faire des prévisions sur 10 ou 30 ans repose en fait dans la connaissance de l'océan, des courants océaniques, des anomalies de température océanique, des anomalies de salinité océanique. Et parce que l'océan, en fait, est la mémoire du système climatique, donc c'est lui qui va donner cette source de prévisibilité. Et donc on a une connaissance assez faible de l'océan, en particulier avant l'ère satellitale et avant le déploiement des bouées, qu'on appelle des bouées Argo, qui donnent donc toutes ces informations trois-dimensionnelles de l'océan.
Donc c'est une mission impossible ?
Ce n'est pas une mission impossible parce qu'on est capable, en utilisant certains modèles, de reconstruire en fait les observations, d'avoir une estimation des observations. Mais il y a une grande incertitude et il y a des problèmes méthodologiques. Donc ce n'est pas une mission impossible, c'est un problème de recherche qui est encore fondamental. Et l'ensemble est est encore prometteur.
Alors ces prévisions pourraient servir aux responsables de l'urbanisme, hein, par exemple, oui. pour éviter de construire dans des zones qui seront inondées.
Ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent.
Jamais, hein. ça ne s'est jamais produit, Denis, vous le savez bien. Oui. Et puis peut-être pour leur répéter et leur faire comprendre l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Bon, ça va être compliqué, mais on va continuer à faire de la pédagogie dans ce sens-là. Et c'est ce que fait la Poste, d'ailleurs, c'est très intéressant.
Et oui,
ça.
Elle a présenté son plan cette semaine pour devenir neutre en carbone.
Donc en émissions de gaz carbonique.
Alors, on connaît déjà la lettre verte. Elle arrive à J+2, 48 heures, parce qu'elle ne prend pas l'avion et elle coûte moins cher. Cette fois-ci, c'est toute l'activité de la Poste qui va être décarbonée. Explication avec Nicolas Routier, le directeur du courrier.
L'émission de gaz carbonique de la Poste, c'est en année pleine 1 400 000 tonnes. Environ 750 000 pour le colis express et 500 000 pour le courrier. Ce à quoi nous engageons, c'est d'abord à les réduire. Notre objectif, c'est de réduire de 20% nos émissions de CO2 d'ici 2015. Et puis après, comme toute activité humaine et industrielle, nous émettons du CO2. Et ce à quoi nous engageons, c'est à les compenser intégralement dès cette année pour assurer la neutralité carbone de tout colis et de tout courrier en France et en Europe. On les compense en investissant dans des programmes qui sont bien sûr labellisés, certifiés, qui souvent sont associés au réchauffement climatique, mais aussi à la lutte contre la pauvreté, qui sont souvent dans les pays du Sud, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Nous allons d'ailleurs aussi essayer d'en lancer un dans les départements d'outre-mer.
Et cette compensation carbone, on va dire ces indulgences modernes, ont quand même le mérite d'exister, Nathalie. La Poste n'est pas la seule à le faire.
Non, c'est vrai. Et des concurrents de la Poste proposent ce qu'on appelle des gammes vertes, hein, des produits décarbonés, mais ils sont plus chers. Alors que là, aucune répercussion sur le prix de votre courrier ou l'envoi de votre colis. Paul-Marie Chavanne est le directeur du colis.
Nous avons préféré proposer à nos clients d'emblée de considérer que c'est La Poste et Géoposte qui internalisaient dans leurs propres organisations ce problème. Ce n'est pas le problème du client, c'est le problème du transporteur. Et donc, nous allons proposer à nos clients une gamme entièrement compensée, sans surcoût, pour faciliter les choses.
Certains de vos concurrents ont créé une gamme verte, ça ne marche pas ?
Les volumes qui sont distribués dans ces gammes vertes sont très faibles. La raison est très simple, c'est qu'on est dans un métier où la compétition sur les prix est extrêmement forte. Et dès lors qu'on dit aux clients, vous avez le droit à une gamme verte, mais vous payez plus cher, ils ne la choisissent pas. Là, il n'y aura aucune répercussion sur le client. L'intérêt, c'est de promouvoir une politique de développement responsable. Et l'intérêt, bien sûr, c'est aussi de proposer à nos clients d'utiliser ces moyens qu'ils vont pouvoir mettre en avant pour dire qu'ils utilisent des transporteurs responsables.
Alors la Poste va acheter 10 000 véhicules électriques et quand même, on peut dire que ça va les aider.
Et nos facteurs sont toujours à vélo et ça c'est bien, et même en vélo électrique, formidable. Ça on aime. Ah oui, 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 comme ça, un petit parfum de nostalgie, c'est presque la croisière jaune. Mais bon, Nathalie, alors puisqu'on en parle, vous savez qu'une Citroën électrique, hein, vous venez de parler de la voiture électrique, vient d'entamer le premier tour du monde du genre.
Oui, elle est partie il y a une semaine de Strasbourg, la C0, et vous pouvez d'ailleurs suivre son trajet sur Internet. Hein, électrique sans accent-odyssée-EY@.com. 25 000 km en voiture électrique, vous imaginez, en passant par les Rocheuses américaines, le cœur du Japon, l'Asie du Sud-Est, la route de la soie, et enfin l'Europe centrale. La voiture va traverser 17 pays, à bord deux jeunes ingénieurs, Antonin Guy et Xavier Degon.
Voilà, et avant de partir, vous n'avez pas pu vous empêcher de leur demander de vous emmener faire un petit tour. Grande aventurière que vous êtes, va.
J'ai pas pu. Antonin Guy est au volant.
On n'utilisera ni la climatisation ni le chauffage parce que c'est un poste important de consommation d'électricité. Donc par exemple là, si on regarde sur la jauge, le véhicule donc qui est pas chargé à fond nous indique qu'on a 64 km d'autonomie. Et si d'un seul coup là je mets le chauffage, ça passe à 40 km. D'autonomie environ. On va avoir froid effectivement, enfin il va falloir qu'on s'adapte et on a déjà prévu tout le matériel pour ça. Donc à la fois des tenues froides pour tout ce qui est États-Unis, puisqu'on y sera à peu près en avril, mars-avril, et puis des tenues vraiment légères pour toute l'Asie du Sud-Est, le Kazakhstan, la Russie.
À quelle vitesse vous roulez ?
Alors le véhicule il peut aller jusqu'à 130 km/h sans problème sur l'autoroute. Ensuite, finalement, comme pour une voiture thermique, plus on va vite, plus les frottements sont importants et plus on consomme d'énergie. Donc nous, pour parcourir la plus longue distance possible chaque jour, on va, disons, ne pas conduire trop vite, Donc, a priori, sur les nationales, par exemple, à une vitesse de 80 km/h.
Et vos nouveaux amis, où sont-ils, Nathalie ?
Ils sont arrivés en Belgique. Et pour ça, ils ont dû recharger les batteries une bonne quinzaine de fois.
Oui, parce qu'en fait, ils comptent sur l'hospitalité des gens. Et c'est le cas, hein, que ce soit le Nord, le Pas-de-Calais, la Belgique, eh ben, ça marche. Hospitalité des gens, des entreprises, des commerces pour se brancher.
Le problème, d'ailleurs, c'est moins le comportement de la batterie de la voiture que celle des téléphones portables. Mais j'ai quand même réussi à les joindre.
On a fait plus de 700 km. Et donc, on a affronté la vague de froid, là, et on est parti de Strasbourg à moins 15 degrés. Donc, ce qui n'a pas été très facile pour les premiers jours.
Est-ce que vous avez eu froid dans la voiture ?
On était équipé pour ça, mais c'est vrai qu'on a eu un peu froid et on a conduit avec les gants et les doudounes.
Quand la température a un peu monté, là, par contre, il a commencé à neiger. Ça nous a permis, et on était impatients de le faire, de tester la voiture et notamment les pneus neige sur route. Et pas de problème, on n'a pas eu d'accident ni de soucis, du coup ça nous met en confiance pour la suite.
Et pour la recharge ?
Ça s'est très bien passé, parce que des fois c'est un peu la même histoire. Donc on arrive chez les gens, on leur demande de l'emprunter leur prise, ils sont un peu sceptiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire, combien ça va me coûter, etc. On leur explique, et ça se termine systématiquement, enfin jusqu'à présent, par finalement ils nous invitent chez eux, ils nous offrent un café, ils nous racontent leur vie... Et ça, c'est à chaque fois même déjà en France et en Belgique, des super tranches de vie qu'on a l'occasion de rencontrer grâce finalement à notre prise électrique.
Voilà, ce sont des conditions extrêmes, mais il y a de l'amitié derrière et c'est pas mal. Alors, on ne fait pas un culte à la voiture électrique, hein, loin de là, simplement, on est dans ce changement de civilisation, on est en train de voir donc, ces nouvelles voitures qui sont en train d'arriver. Bah, autant les tester hein, dans des conditions solides. Donc, on leur souhaite bonne route, on vous donnera régulièrement de leurs nouvelles.
son prénom, Nataf, son nom. Viens me le dire sur France Inter. On poursuit cette actualité avec vous, Nathalie. En chassant le CO2, et c'est notamment en son nom que le rapport énergie 2050 estime qu'il faut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 40 ans.
Oui, si on fait ça, dit le rapport, eh bien le prix de l'électricité n'augmentera pas trop, 59 euros le mégawattheure, alors que si l'on substitue au nucléaire des énergies renouvelables, eh bien ça monte à 102 euros. Alors vous savez que ce rapport est plus que contesté par les écologistes.
Oui, il faut dire que la commission qui a travaillé serait composée de dangereux pro-nucléaires.
J'ai posé la question au vice-président de la commission, Claude Mandil.
Mais nous ne sommes pas du tout pro-nucléaire, nous ne sommes pas plus pro-nucléaire que nous ne sommes anti-nucléaire. En réalité, si on devait qualifier notre commission, c'est une commission anti-gaspillage. Et il y a trois richesses en France qu'il ne faut absolument pas gaspiller. La première, c'est l'énergie. Et c'est pour ça que nous disons dans notre première recommandation, la maîtrise de la demande d'énergie, l'efficacité énergétique doit être une grande cause nationale. La deuxième, c'est l'argent. Il faut économiser l'argent, il ne faut pas le gaspiller. Pour ça, il faut prendre les solutions les moins coûteuses. Et la troisième, c'est les compétences, et notamment les compétences scientifiques, techniques, industrielles qui sont dans notre pays. C'est ça les trois grandes richesses que nous devons maintenir. Tout ça converge vers, un, la maîtrise de l'efficacité énergétique, deux, le maintien en fonction du nucléaire existant aussi longtemps que l'autorité de sûreté dira qu'il peut fonctionner. Et trois, le développement de la recherche en liaison avec l'industrie pour essayer d'obtenir aussi vite que possible, d'une part, des renouvelables compétitives, deuxièmement, des progrès dans l'efficacité énergétique des bâtiments et des transports, et troisièmement, du stockage de l'électricité pour permettre d'utiliser pleinement des énergies renouvelables intermittentes.
L'énergie, c'est toujours un choix politique, hein, ça on le comprend bien. Je tiens à signaler qu'il y a vraiment une convergence de position entre l'UMP et le PS sur le sujet. On l'entend jour après jour. Le chauffage électrique, on ne s'inquiète pas, sera bien gardé. Pas certain du tout que ce sera un sujet donc soumis un jour à un référendum. Mais si on les croit, Nathalie, c'est une commission anti-gaspillage.
Hein, ce qu'on comprend. Faut croire. Voilà, ça, ça fait... Tiens, puisqu'on parle de gaspillage, nous avons été appelés, souvenez-vous, hein, à réduire notre consommation pendant la vague de froid.
Et donc RTE propose depuis cette semaine une application gratuite, hein, c'est le réseau de transport d'électricité.
Oui, Eco2 Mix, elle permet de suivre en temps réel la consommation d'électricité, la production par filière, nucléaire, thermique classique, hydraulique et renouvelable, et les émissions de gaz carbonique. Mmh. Alors jusqu'ici, ces informations étaient déjà disponibles, hein, sur Internet, vous pouvez maintenant les télécharger sur votre mobile. Moi, franchement, je trouve ça passionnant et ça peut peut-être nous aider à prendre conscience de notre pouvoir.
Oui, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein,
le pouvoir de dire non, voilà. Non, je ne laisse pas les appareils en veille, non, je n'ai pas besoin d'être éclairé chez moi comme à Versailles.
Bon, et puis on est un petit peu loin peut-être quand même du citoyen consommateur, acteur sur l'énergie dont on parlait la semaine dernière. Mais, nous allons terminer. Tenez par une jolie note, on a bien compris qu'il y avait des cuicuis dans l'air.
Oui, parce que cette année, la fête de la nature célèbre aussi les oiseaux, avec un défi, installer 10 000 nichoirs d'ici le mois de juin. C'est aussi un clin d'œil à la Ligue pour la protection des oiseaux, vous le savez, hein, qui fête ses 100 ans cette année.
Alors Nathalie, chez vous, je connais un petit peu, je ne vois pas très bien, vous pourriez caser un nichoir de plus.
Denis, j'avoue, là, il n'y a plus de place. Hein. Bon, sur le site fetedelanature.com, ouais. Eh bien, vous trouverez prochainement un mode d'emploi pour fabriquer votre propre nichoir et aider les oiseaux à faire leur nid.
Parce qu'il y a crise du logement.
Oui, la destruction des haies, l'arrachage des arbres creux, la rénovation des vieux bâtiments entraîne effectivement une pénurie de sites propice à la construction d'un petit nid.
Et voilà. Et donc je vous rappelle que votre coucou suisse qui trône dans la salle à manger, qui vous horripile toutes les demi-heures, n'est pas comptabilisé comme nichoir. Hein, c'est ça. Merci Jean-Nathalie Vontel.
Mais j'ai pas de coucou suisse.
Non, mais pas vous, mais enfin il y a sûrement des gens qui nous écoutent. Coucou, coucou. Mais au revoir Nathalie.
Au revoir Denis.
Et vous reviendrez nous faire un petit coucou très très prochainement. We'll be right back. Tenez, moi je vais vous faire un petit coucou au numéro spécial 100% photo de ce mois de mars, février. Ouh là là, j'avance. De Terre Sauvage, les plus belles photos de l'année par les meilleurs photographes. Donc c'est extrêmement vaste. C'est-à-dire que nous allons partir aussi bien de l'Inde, où nous allons voir à la fois des rhinocéros protégés et des rhinocéros qui sont traqués. Nous allons pouvoir partir aussi dans une réserve naturelle de Madagascar à la rencontre d'apiculteurs. Et puis un très joli article sur la Slovénie, donc on est au sud de l'Autriche, on est à l'est de l'Italie, avec le plus grand lac intermittent d'Europe. Je veux dire qu'il a un sous-sol qui est parcouru de boyaux, de puits, de siphons, donc c'est le lac de Cernica. Et il apparaît, il disparaît, il réapparaît en fonction des saisons, c'est assez étonnant. Voilà, mais il n'y a pas que ça, hein, vraiment des photos animalières aussi de toute beauté. C'est dans le numéro, comme je le disais du premier coup, de février de Terre Sauvage, numéro spécial 100% photo. Merci à Pierrick Monsigny, Rémi Quincé à la technique, à Stéphane Combe, à Valérie Ayestara qui réalisait l'émission, à mon copain Patrick Deschamps de l'Isère, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon, indispensable web documentaliste qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et il y a aussi son site sur l'environnement en temps réel. Et la semaine prochaine, eh bien, nous irons en Ile-de-France avec l'association Ile-de-France Environnement et Michel Riotto. Nous irons en Seine-et-Marne, entre autres, on va parler d'huile de schiste. Ah ouais, vous en rêvez, ben, on va faire le point sur les décharges, sur l'huile de schiste, au reportage aussi, et d'autres éléments de compréhension. Possibilité de réécouter l'émission une semaine, de l'enregistrer pendant une semaine, et de la réécouter pendant 4 semaines, je vais y arriver. Et l'Atulu Montilou, ce sera donc demain à 19h54, après les petits bateaux. Allez, pub.